carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
L'art déco n'a aucun secret pour Ludwig Vogelgesang, maître d'art. Rencontré dans son atelier à Paris en compagnie de l'académicien Aymeric Zoublena, il nous raconte sa passion et sa conception du travail d'ébénisterie. Nous commençons cette rencontre avec Aymeric Zoublena.
Je pense que c'est parmi tous les métiers d'art l'un des plus nobles et qui touche une matière noble, une matière vivante. Moi, j'ai toujours entendu mon père dire le bois est vie, le bois enregistre les températures, l'humidité, c'est un matériau vivant. Voilà, donc c'est mon enfance que j'exprime là. Mais c'est surtout le plaisir de voir comment les gens qui ont le talent des mains et puis la pensée et l'œil aussi, et la sensibilité des doigts, peuvent travailler ce matériau magnifique qu'est le bois, tous les types de bois. Je trouve le travail d'ébénisterie depuis ses origines est un travail magnifique de sensibilité, je viens de le dire. L'art déco, bien sûr, parce que c'est peut-être celui, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, vous allez m'en apprendre, peut-être celui qui a eu l'imagination de travailler sur des matières et des matériaux différents et de faire avec ces matières, ces couleurs, ces textures différentes des compositions formidables. Alors, à ce titre-là, oui, peut-être les arts déco. Enfin, je pense à de grands ébénistes du XVIIe, du XVIIIe siècle, qui, des marqueteurs qui étaient des gens remarquables aussi. Le bois intervient beaucoup, pour des raisons d'ailleurs d'écologie actuellement, mais c'est à une autre échelle, ce n'est pas de la même nature de travail, ce sont plutôt à ce moment-là des charpentiers ou des menuisiers. Ces métiers-là ont quand même aussi ce goût du matériau. Donc on utilise effectivement de plus en plus le bois dans l'architecture. En ce qui me concerne, je n'ai pas jusqu'à présent eu le plaisir justement de pouvoir faire des réalisations où le bois comptait d'une façon très très importante, si ce n'est en tant qu'élément de façade. Bon, avec des matériaux qui forment isolation thermique extérieure. Mais ce n'est pas la même nature, ce n'est pas le bois utilisé comme un support d'une réflexion artistique. C'est autre chose, c'est plus technique.
Il y a une chose très intéressante que vous avez dit sur la matière vivante. C'est tout à fait ça. Le bois a plein de caractères et d'une vie interne. Et notre travail est basé, en fait, déjà par l'apprentissage, et puis de maîtriser ces matières, mais maîtriser dans le sens d'aller dans sa direction. Parce que c'est le seul moyen, en fait, par la compréhension, de pouvoir faire quelque chose avec. Et chaque bois a son caractère bien défini, avec plein de possibilités qui s'adaptent ou pas à certaines choses. Et là, vous avez tout à fait raison. Point de vue ébénisterie, pour moi, la France, c'est le centre avec New York et Londres mondial de la création et de la fabrication d'objets d'excellence. C'est un métier qui a été un peu oublié pendant les dernières années et il y a pas mal à revivre. Quand je suis arrivé en France, les amis de mes parents m'ont dit « C'est un travail que tu devrais faire parce que tu verras, dans quelques années, ça va devenir un métier très très rare » et ils avaient 100% raison. Et puis on est tombé dans l'art déco. Par hasard, personne ne voulait à l'époque le restaurer. C'était un style très moderne, un peu trop précurseur encore. Et ça sortait vraiment un peu de l'habituel. Et par hasard, on en est arrivé en contact avec ses clients et on a pu vivre cette époque jusqu'à maintenant. Et c'est ce petit espace, en fait, d'histoire, on s'est l'approprié et c'est ça qui nous donne maintenant notre savoir-faire et notre passion. Il faut savoir que l'art déco, déjà à l'époque, c'était un style extrêmement élitiste. Il est resté toujours très élitiste. Et la demande, elle est toujours là, oui, parce que c'est des objets fantastiques. Et puis, il faut savoir aussi une chose, que l'art déco, d'après moi, c'est un des derniers styles où il y a encore vraiment ce savoir-faire traditionnel avec le renouvellement, en fait, de l'industrie, de la série et tout ça. Après, petit à petit, le travail manuel a été mangé par l'industrie. Les bois se sont adaptés aux machines et c'est plus l'artisan qui, avec intelligence, a essayé de comprendre la matière. Et puis ça s'est un peu éloigné de ce savoir-faire, à mon avis. Moi, je suis un artisan, avec une grande chance de pouvoir travailler et restaurer des pièces phénoménales qui sont une école vraiment fantastique, parce qu'on arrive à rentrer un peu dans cet esprit des créateurs de l'époque, de comprendre comment ils ont fait. C'est quelque chose de vraiment de fantastique. Il y a un phénomène de mode, mais la mode se crée sur quelque chose qui a la capacité de le devenir aussi. Sinon, ça ne se fait pas. C'est vraiment la qualité, en fait, qui perdure dans le temps. Et c'est fantastique si on s'imagine ces objets, ce voyage qu'ils font dans le temps. Et ce n'est pas fini, ils vont encore perdurer. Et ils sont toujours appréciés tout le temps par les gens. Ils passent en vente, ils se vendent à des prix, comme l'art déco, très très cher. Et ça va perdurer, ça ne va pas vraiment changer dans le temps.
Moi, je vous vois comme un artiste parce que j'ai lu dans le petit livre que vous avez envoyé un commentaire sur votre travail et ce que vous faites et ce que vous créez aussi. J'ai compris que vous créez aussi de temps en temps des meubles. Vous imaginez des meubles. Vous ne faites pas que les restaurer.
Oui, on fait aussi des créations, mais ces créations, c'est les fruits en fait de ce qu'on a appris sur ces objets.
Oui, bien sûr, mais enfin, vous avez un support qui est celui qui vous passionne, celui de l'art déco, bien sûr, mais vous allez au-delà, vous projetez vous-même dans des créations. D'ailleurs, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois, lorsque vous avez réalisé une commande d'un meuble conçu par vous, pour un client, d'en refaire un second que vous vous gardez pour vous, pour vos collections personnelles?
Malheureusement, ces meubles, comme je disais tout à l'heure, ils sont faits pour une élite. Et une élite, c'est des objets qui valent très cher et le temps y compte. C'est un peu difficile d'avoir des objets à ce niveau-là, même si j'aimerais beaucoup. Ouais.
Vous devriez au moins un de temps en temps pour vous, pour votre collection personnelle.
J'ai quelques petites pièces, oui. Ouais.
Oui, je reviens un instant sur le bois. Effectivement, à partir des années juste avant la guerre, et surtout après la guerre, des matériaux nouveaux qui sont des composantes à partir de bois, de fibres de bois, de chutes de bois, sont apparus pour des raisons économiques aussi. C'est que le bois est un matériau cher, et donc il ne peut être utilisé que, peut-être pas pour des pièces rares, mais en tout cas pour des commandes particulières. Et comme c'est un matériau vivant et qu'il est cher, ça, à lui seul, il constitue déjà un élément d'attrait très, très fort.
Il faut savoir que l'art déco, il y a eu aussi toutes les colonies françaises qui avaient des trésors de bois extrêmement intéressants et exotiques qu'ils ont amenés en France. Et tout le monde, évidemment, a utilisé ces matières. Et c'est ça qui rend aussi ces objets si intéressants.
Vous utilisez le bois aussi sous forme de plaquage, ce qu'on appelle maintenant les essences fines, c'est-à-dire...
Ils font des feuilles d'un millimètre,
c'est ça.
Qui habille une carcasse.
Absolument, oui.
Il faut savoir que dans le 18e, en grande partie, les meubles sont montés sur des châssis, des bâtis qui avaient tendance de bouger. Cérulman lui-même, il a énormément exporté en Amérique et il y a des conditions atmosphériques, climatiques qui varient énormément. Et il a eu pas mal de problèmes. Et c'est pour ça qu'on est arrivé aussi au contreplaqué. Il faut savoir qu'une grande partie des meubles, surtout en art déco, sont des bâtis en contreplaqué, anoblis par des matières qu'on applique par-dessus, pas des plaquages.
Oui, oui.
Alors on croit souvent que c'est du massif. Non, ce n'est pas du massif. Non, c'est une structure contreplaquée. Il ne faut pas se dire que c'est une matière qui n'est pas noble, parce que c'est du bois. Mais du bois collé de telle façon qu'il évite de trop travailler, qui est plus stable dans le temps et peut sauvegarder le meuble aussi beaucoup plus longtemps.
Je vais faire mon savant. Lorsqu'on fait du plaquage, le problème, c'est les cloques.
Oui.
Ce problème existe toujours. C'est lorsque la surface de colle n'adhère pas parfaitement à son support, enfin plutôt le plaquage au travers de la colle n'adhère pas à son support, il faut intervenir après coup. C'est toujours là aussi, ça se sent au doigt.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que les colles utilisées, ils ont aussi une certaine durée de vie. Et c'est pour ça qu'on existe aussi. Parce que sinon, on n'aurait jamais de travail. Et des conditions de sauvegarde aussi, qui est très, très importante. On néglige, à mon avis, pas mal ce facteur. Et surtout actuellement avec le chauffage central qui dessèche l'air, dessèche aussi la colle. Et c'est ça qui crée les cloques. Parce qu'après, la colle, elle n'est plus en adhésion avec ce plaquage et se décolle au fur et à mesure. Et là, notre travail est évidemment d'intervenir et de restabiliser, remettre en état ces objets.
Là, je vois un très beau travail sur les veines du bois.
Ouais.
Un assemblage superbe.
En fait, c'est juste un collage de stabilisation. Et nos lattés, on les fabrique nous-mêmes pour avoir une qualité qui nous convient aussi. Et on fait ça avec du pain d'Oregon en partie, qui est très beau d'ailleurs.
J'ai lu que vous utilisez aussi le galucha. On trouve encore du galucha?
Le galucha, on le trouve, oui, parce que de base, c'est une raie.
Et la raie... que c'est de la peau de requin, moi. Non, c'est une raie.
Vous avez raison. En 18e, c'est le galucha, c'est du petit grain. C'est de la roussette, qui est un petit requin. Et en art déco, c'est le gros grain, c'est plutôt de la raie. D'ailleurs, on les voit parce qu'ils ont des sphères beaucoup plus grosses. C'est une structure plus grossière, en fait.
Oui, c'est un matériau dont l'utilisation est rare et peut-être essentiellement pour des meubles art déco. Je ne sais pas, je n'ai pas en tête, en tout cas, de créations contemporaines utilisant le galucha, mais peut-être qu'il y en a, je ne les connais pas.
Oui. Oui, c'est en période art déco, on a recommencé de réutiliser, en fait, ces peaux. Et là, pareil, on a eu la chance d'avoir pas mal de meubles où on a pu petit à petit comprendre comment ça a été fait, parce qu'il n'y a pas eu d'écrit sur ce travail-là, ça a été perdu. Et on a pu reconstituer en fait tout le schéma de collage qui a duré beaucoup d'années. Mais actuellement, on peut dire qu'on est arrivé à... On colle le galucha comme ça a été fait à l'époque.
Alors il y a actuellement une exposition sur le France, où là, les décorateurs, les artisans, les artistes du mobilier, enfin de tout ce qui concourt au décor intérieur, étaient vraiment à l'honneur. Je ne sais pas si dans les nouveaux paquebots, des tours opérateurs, s'il y a autant de présence, de sensibilité artistique, autant d'intervention d'artisans à un très haut niveau comme vous, je ne sais pas.
La sensibilité, elle est là, mais les moyens, peut-être, ils ne sont pas les mêmes. À l'époque, il y a eu cette frénésie, en fait, de construire le plus beau, le plus fantastique, avec tous ces ébénistes qui étaient sur la place de Paris. Il y en a beaucoup moins maintenant. Oui, nous, on a fabriqué une centaine d'objets pour un yacht privé de 74 mètres, d'une personne qui a compris justement ce côté de faire du traditionnel, pas du clinquant. Il a créé quelque chose de très très beau.
Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'en plus, le France, c'était des paquebots qui s'adressaient à une clientèle fortunée, alors que les grands bateaux des tours opérateurs, c'est pas tout à fait...
Oui, ça a changé. C'est comme aussi voler en avion. C'est devenu quelque chose de tout à fait commun. Et à l'époque, c'était plutôt rare. Par contre, on a restauré des objets qui étaient sur les paquebots. Ouais, on a eu la chance de... D'ailleurs, ils avaient des fixations aux pieds pour être vissés sur le bateau. Ouais. Je crois que c'est les France qui étaient vendus aux enchères. Le
mobilier, enfin, Mais en plus, l'ébénisterie, ce qui est intéressant, c'est que c'est une production qui fait intervenir d'autres artisans d'art. Je pense aux serrures, aux clés des serrures.
Vous avez tout à fait raison. J'ai un schéma. En fait, l'ébéniste, il se trouve au centre et tout autour de lui, il y a énormément d'artisans qui collaborent. Il y a des ferronniers, des tapissiers, des gainiers, des laqueurs, vernisseurs, marqueteurs, marbriers, ciseleurs, bronziers, doreurs, miroitiers et beaucoup d'autres encore.
Je suis ravi de cet entretien parce que ça me fait revivre un certain nombre de
souvenirs. Oui, ça c'est formidable parce que
souvenirs.
Nous, on est obligés de regrouper tout ça pour pouvoir finaliser l'objet.
Mais alors, où trouvez-vous tous ces artisans, tous ces artistes et surtout les matériaux à mettre en œuvre? Parce que, bon, j'ai évoqué tout à l'heure mon enfance, c'était rue des immeubles industriels, il y avait tout le faubourg Saint-Antoine, il y avait donc tous les vernisseurs, tous les maroquiniers, les marbriers, non marbriers, j'en ai pas connu, des doreurs, les bronziers. Il n'y a plus ces gens-là, ou tout le monde, ils ne sont plus là.
Oui, le faubourg, malheureusement, il a plus ou moins disparu, mais il y a dans Paris même tous les métiers qu'on peut s'imaginer. Et puis, c'est des contacts qui se font pendant les années avec des gens qui vont dans la même direction. Et après, chacun a son choix des gens qu'il aime pour travailler avec, qui sont des gens tous exceptionnels aussi, qui détiennent des savoir-faire fantastiques.
L'école Boulle, je crois, est une excellente école de formation pour tous les gens de ces milieux-là.
Très, très bien. L'école Boulle, j'étais aux portes ouvertes à l'école Boulle. J'étais impressionné. Ça a été rénové. Ils ont des ateliers à la pointe. C'est vraiment impressionnant. Je crois que c'est en juillet ou en juin, il y a de nouvelles portes ouvertes. Qui peut y aller? Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un voyage dans le passé et dans le futur. Parce qu'ils ont compris qu'il faut innover. Et il y a plein d'innovations extrêmement intéressantes, dont une chose qui pourrait vous plaire énormément, c'est les marketeurs. Ils ont mis au point un système de créer des marqueteries en ciment qu'on peut remonter comme un puzzle sur des façades d'immeubles.
Ah oui, oui, oui.
Avec des couleurs et tout, c'est spectaculaire.
Oui, surtout que maintenant, il y a des ciments qui permettent justement
d'être colorés.
D'être colorés et puis d'être mis en œuvre dans des conditions complètement différentes de celles qu'on connaît où on vibre entre deux taux de le ciment.
Oui, j'ai vu des petits exemples, oui, oui. C'est spectaculaire.
Ce sont des ciments très chers, mais dont les performances sont très, très, très hautes, très intéressantes. Alors, on les utilise aussi à d'autres échelles, mais effectivement, celle que vous venez d'évoquer, je vois très bien ce que vous parlez.
C'est très, très beau.
Oui, très beau. Ouais.
Il faut savoir que l'art déco, soit il est très très beau et c'est vraiment des pièces à top niveau, ou sinon c'est le moyen, et le moyen, malheureusement, même s'il est bien fait, personne n'en parle. Et on n'a que des pièces comme ça. C'est une chance spectaculaire.
Vous avez eu à rénover des pièces de Ruhlmann?
Je pense qu'on est arrivé à 420 Ruhlmann en restauration.
Ah, effectivement, oui.
J'ai fait le calcul l'autre jour. Ça, ouais.
Mais qui proviennent de France, de l'étranger?
De France, étranger, ouais. Musées, collectionneurs. Ouais. Dernièrement, on a fait un mécénat pour le musée des années 30. On a restauré une table à jeu.
Alors, je ne sais pas si Le était un décorateur et s'il avait aussi un atelier d'ébénisterie, je crois. Adnet. Mais je ne sais pas s'il avait un atelier d'ébénisterie.
Et il a fait, tous fait des meubles, ouais. Ouais.
Je crois que Le avait effectivement un atelier d'ébénisterie.
D'ailleurs, il fait des objets très 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 beaux, qui sont d'ailleurs aussi exposés au musée d'années 30. Et ça, c'est une adresse aussi que je propose à aller visiter, le musée des années 30 à Boulogne. Un musée très intéressant, très innovateur, et qui a cet esprit de l'art déco vraiment profond qui... Il y a des chefs-d'œuvre, mais il faut savoir aussi que Boulogne était une ville très art déco. D'ailleurs, il y a encore en architecture, on peut faire des parcours des immeubles art déco.
J'étais récemment à Villeurbanne, c'est pas tout à fait de l'art déco, mais enfin, il y a une architecture qui évoque un peu aussi Boulogne. Mais je pense que des personnes comme vous peuvent intervenir dans des opérations à haute valeur symbolique. Je pense à des musées. Je pense à des salles de concert. Probablement, notre confrère Nouvelle fera appel pour certains aménagements intérieurs de la future salle de concert qui est en train de se faire, là, à des artisans comme vous.
Il faut je dirais pas des heures, il faut des semaines.
Oui, oui.
Des jours, et puis c'est toujours ces mouvements, mais c'est un mouvement qu'on apprend avec les temps, qui arrive vraiment à la perfection parce qu'il faut jamais s'arrêter. Et quand on commence, on doit rentrer tout en douceur et toujours en mouvement, et si on veut s'arrêter, il faut sortir. Surtout jamais arrêter sur l'objet parce que sinon la toile reste collée. Et tous les piquants qui sont sur la toile, ils s'incrustent dans le vernis.
On humecte avec de l'alcool. Qu'est-ce que le vernisseur tient comme ça, le tampon, et puis de temps en temps.
Vous voyez là la bouteille de gomme lac et la bouteille d'alcool à 99 degrés. Et on charge en fait un tampon en une mèche, et après on l'étale doucement sur le meuble. Et c'est une couche. Ce n'est pas des couches successives, on retravaille tout le temps la même couche. C'est pour ça qu'il est si beau, parce qu'il est très fin, très transparent, et il laisse vraiment la vie du bois se passer à travers.
Ce sont des techniques qui ont été pratiquement complètement oubliées à partir du moment où on a inventé le vernis au pistolet.
Le pistolet, ouais. Ce n'est pas la même chose, c'est un peu comme plastifier l'objet.
Bien sûr,
il a plus cette force,
cette transparence. Ouais. Oui, c'est vrai.
Et moi, je suis persuadé que le travail manuel, il apporte quelque chose. On ne peut pas expliquer vraiment quoi, mais on ressent qu'il y a quelque chose de plus. Et dès qu'on commence
à... de la main, comme vous dites.
Et si on cherche de trouver toujours des moyens pour aller plus vite, on n'y arrive pas. Les vernis au tampon, il faut prendre le temps, et c'est ce temps-là, et on ne peut pas faire plus vite.
Moi, je pense que des chimistes, il faut leur demander de se pencher là-dessus, ou des physiciens plutôt. Probablement que lorsqu'on projette au pistolet une couche de vernis, c'est peut-être, je dirais un dixième de micron, tandis que lorsqu'on passe à la main, c'est peut-être un centième de micron.
Ouais, ouais.
Donc il y a une plus grande transparence. Mais là, j'improvise, hein. je suis pas un spécialiste.
Non, mais le pistolet, de toute façon, c'est des couches.
Oui, successives, voilà.
Ouais, successives, et après, ça prend l'épaisseur. Et la lecture à travers, elle n'est pas la même. Peu de bruit, c'est les machines. Ici, il est en train de serrer. On voit l'objet qui est sur la table, qui se trouve sous pression. Alors, on a une pompe qui tire l'air sous la table. Il y a un réseau.
Oui.
Elle crée le vide.
C'est formidable. Ce qui fait que vous arrivez
table.
À une pression uniforme.
Uniforme, on arrive à 2 bars par centimètre carré. C'est un bar dans la machine, et puis nous, on vit sous un bar de toute façon.
Ouais.
Alors il y a deux bars d'application.
Ah oui, puis alors en plus, c'est beaucoup moins encombrant que les anciennes presses.
Tout à fait.
Qu'on utilisait.
C'est une chose formidable parce qu'on a une meilleure qualité et une facilité d'emploi supérieur que les presses un peu torsionnaires qu'on avait dans le temps.
Oui, que j'ai utilisé, que j'ai manipulé moi aussi.
Ça glissait tout le temps.
Il fallait remettre les cales qui déplaçaient toujours.
Ouais. Ça a l'air très simple, mais c'est extrêmement fin comme travail, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, chaque bois a son caractère et chaque bois doit être traité d'une autre façon.
C'est vrai.
Il y a des bois qui s'appliquent très facilement, des bois où il faut rajouter des cales parce qu'ils ont du mal à s'appliquer. Un bar, c'est beaucoup réparti, mais en pression, ce n'est pas énorme. Alors nous, on doit préparer extrêmement bien les matières le peut-être le mettre déjà en forme avant, qu'il y a le minimum de contradictions. Et après, on arrive à faire des collages spectaculaires. Elle est très vaste, parce que là, on la travaille sur table, ça veut dire l'objet est appuyé sur la table. On peut doubler la face du latex et on travaille en sac. Ça veut dire qu'on applique en dessous, au-dessus. Ah ouais. Et si un objet est déformé, même en restauration des objets qui sont un peu déformés, on respecte l'âme et on peut intervenir. On arrive à décoller des plaquages avec ça.
Donc les doucines, lorsque, il voudrait en faire, il y en a peu dans.
Mais je peux vous montrer déco, les choses qu'on fait avec. C'est,
on arrive donc à faire des formes courtes.
C'est la folie.
Non, je crois qu'on admire son savoir-faire, mais on ne sait pas assez que l'artisan peut être aussi un créateur et qu'il est même quelquefois amené à interpréter la commande qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il y apporte autre chose qu'une simple reproduction. Il y a une dimension sensible, ce n'est pas de la mécanique, ce n'est pas la reproduction au millimètre près d'un objet. Il y a la part humaine, d'abord il y a la sensibilité de la main, et puis il y a la sensibilité de celui qui travaille la matière et qui fait qu'il crée, à sa façon.
C'était donc un portrait du maître d'art Ludwig Vogelgesang, maître de l'art déco, à l'occasion des journées des métiers d'art, et nous étions accompagnés d'Emeric Zoublena de l'Académie des Beaux-Arts pour mettre en relief ce métier, cette passion et une certaine conception du travail d'ébénisterie.